n'est-ce pas? Et ça jusqu'au mois de juin dernier, avec, durant ces 3 mois, autorisation des sorties très limitées pour faire ses courses, se dégourdir les jambes, ou pour un rendez-vous médical, même si certains ont continué à travailler. Nous avons mis ensuite en place tous les mercredis études bibliques, comme d'habitude par vidéoconférence, le vendredi avec notre réunion de prière, et le dimanche avec le culte. Et pour se tenir informés les uns avec les autres, on instaura un forum de nouvelles. Hein. Tous ceux qui ont participé ont connaissé les nouvelles qu'il y avait, si quelqu'un est malade et tout ça. C'est quelque chose qui a été très utile. Un merci appuyé et donné à nos frères webmasters, excusez-moi la prononciation anglaise, hein, qui ont patiemment, hein, 3 fois par semaine, mis techniquement tout en place, avec une qualité et un dévouement remarquable, même si parfois la connexion était difficile, voire impossible, donc la frustration palpable. Et merci à chacun et chacune qui a pu, d'une manière ou d'une autre, apporter sa pierre à l'édifice qu'est l'Église par son temps, ses compétences et sa disponibilité. Que retenir de cela humainement, communautairement et spirituellement parlant? Ce Covid était-il un avertissement que le Seigneur, dans sa souveraineté, a adressé aux humains sur leur comportement égoïste et leur vie insouciante sans lui? Nous pourrions le considérer comme tel. Dans Ecclésiaste 7-14, nous lisons « Au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis, car Dieu a fait l'un et l'autre, si bien que l'homme ne peut rien découvrir de ce qui doit lui arriver. » Voilà ce qu'il nous dit l'Ecclésiaste. Alors, réfléchissons et agissons en conséquence. Peut-il y avoir des positifs dans tout cela? Sans minimiser les difficultés et les souffrances profondes de beaucoup, j'oserais dire oui. En effet, ces temps de retraite forcée et de silence ont été pour plusieurs l'occasion de se rapprocher de Dieu, de prendre davantage de temps avec lui, de resserrer les liens familiaux, de faire un culte de famille, de méditer, de lire, de réfléchir, de faire des choses qui étaient en suspens, jardin, rangement, bricolage, et de se reposer. En ces temps ont été non seulement pour les chrétiens de notre Église, mais aussi pour le grand nombre de nos contemporains, l'occasion d'un formidable élan d'altruisme, de générosité, de solidarité, envers les personnels soignants, envers des personnes dites en première ligne, envers les personnes seules, envers les personnes vulnérables et fragiles, mais aussi envers les personnes en situation de grande détresse économique et sociale qui subissent de plein fouet les effets de cette crise. Des sœurs ont aussi confectionné des masques pour leurs proches, pour leurs connaissances, pour l'Église aussi. Nous en aurons besoin pour nos réunions, parce que ça va continuer à avoir des masques. Hein. Notons aussi, à titre collectif, que notre banque alimentaire, qu'il faudra renflouer, a pu proposer à plusieurs reprises ses services d'aide envers une association solidaire, les Secours Populaires, et la distribution des produits nécessiteux pour les personnes démunies. Hein, on a complètement vidé. Perspective pour le prochaine semaine. Les choses rentrent ou rentreront lentement et progressivement à la normale depuis quelques jours. Et nous allons donc, durant tout l'été, avoir un culte à 10h30 et retransmission en direct et en vidéo sur Internet, YouTube, pour permettre à tout le monde de continuer à célébrer notre Seigneur, grandir dans sa connaissance, et bénéficier de la communion fraternelle qui nous a tant manqué ces dernières semaines. Et maintenant, gardez les yeux sur Jésus. Beaucoup disent, et il le faut, que le monde d'après, comme on l'appelle, sera et doit être différent du monde d'avant. Les êtres humains auront-ils appris leur leçon? Les chrétiens auront-ils aussi appris quelque chose de tout cela? Je l'espère et je le souhaite. Du point de vue humain, puisse cette crise permettre un sursaut de solidarité, de fraternité, d'entraide, auprès comme au loin, mais aussi des remises à plat des vraies valeurs de la vie, des retours aux choses simples, des sobriétés dans sa consommation, ses intérêts, ses loisirs, ses révalorisations, des circuits courts du point de vue du commerce, des révisions de ses priorités, et aussi des respects et des valorisations de la nature et de son environnement. Oui, des véritables conversions sociales et écologiques. Et pour les chrétiens que nous sommes, puissions-nous non seulement promouvoir tout ce qui est écrit ci-dessus, car il va droit dans l'Évangile, mais également vivre de l'espérance dans le Dieu vivant et vrai qui s'est incarné en Jésus-Christ, notre Seigneur, la partager, la proclamer, et ne pas sombrer dans la sinistrose ou le pessimisme promulgué, entre autres, par les défaitistes actuels. Pour cela, et comme mot d'ordre et bonne disposition pleinement réaliste et positive, Hébreux 12, 1 et 2, « Courons résolument la course qui nous est proposée, gardons les yeux fixés sur Jésus, celui par qui notre foi a commencé et qui l'amène à la perfection. » Je termine cette longue réflexion par les paroles d'un cantique que j'ai bien aimé, c'est dans J'aime 3. Voilà ce qu'il dit. « Jésus, espoir des nations, Jésus, soutien de ceux qui pleurent, tu es la source de tout espoir sur terre. Jésus, lumière dans la nuit, Jésus, vérité en tout temps, tu es la source de la lumière sur terre. Tu es venu vivre et mourir, briser les liens, ressusciter. Tu es l'espoir qui vit en nous. Tu es le roc solide et sûr. Tu es la lumière, par ton éclat, le monde voit. Ressuscité, tu es vainqueur, prince de paix, plein de douceur, tu es l'espoir vivant pour celui que tu reçois. Oui, nous le croyons. » Voilà, alors, nous allons terminer. Notre frère va nous apporter la parole. Je vais prier pour que le Seigneur puisse nous accorder la grâce d'ouvrir nos cœurs et de donner la puissance à notre frère. Père Céleste, merci. Merci, Seigneur, de nous avoir donné encore cette grâce, de pouvoir encore se réunir, de pouvoir voir nos frères et sœurs en chair, comme on dit, afin que nous puissions nous réjouir de ce que nous avons au plus profond de nous-mêmes, le Saint-Esprit que tu nous as accordé pour que nous puissions marcher avec toi. Oui, merci, Seigneur, de toutes les bénédictions que tu as déversées dans la vie de chacun de nous pendant ces 3 mois. Nous te remercions du plus profond du cœur. Mais nous étions sûrs et certains, Seigneur, que cela, il allait se vérifier. Car tu es le même hier, aujourd'hui et demain. Tu aimes tes enfants, tu pourvois aux besoins de tes enfants. Voilà pourquoi nous te rendrons grâce, Seigneur. Nous sommes là, Seigneur, pour écouter ta parole. Il y a quelqu'un de nous ici qui a besoin de cette parole. Que cette parole puisse nous faire avancer avec toi, pour que nous soyons des instruments entre tes mains et que nous puissions apporter tout autour de nous cette bonne nouvelle. Oui, que c'est une bonne nouvelle, car on n'entend que de mauvaises nouvelles, mais nous sommes porteurs de cette bonne nouvelle que Dieu aime l'humanité, qu'il a tout fait pour cela. Et nous te prions, Seigneur, de combler notre frère Olivier dans ce message. Accorde-lui, Seigneur, toute la puissance dont il a besoin, qu'il puisse nous apporter ce que toi tu lui dis, Seigneur, en laissant de côté l'homme Olivier, que nous puissions voir en lui ton prophète, ton envoyé, Seigneur, afin qu'il puisse nous donner tes pensées, tes plans. Et toutes ces choses-là, Seigneur, ils ont été puisées dans ta parole pour ta seule et pour ton unique gloire. Répands tes grâces sur nous, afin que ton nom puisse en retour être glorifié et adoré. À toi soit la gloire, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.
Bien, gardez le masque, ne m'ennuie pas. En début de prédication, quand on y réfléchit, on se dit, mais est-ce que je suis dans la volonté du Seigneur ? Alors, figurez-vous que Pasteur Aldo, Johan et Samy ont dit une partie de ce que je voulais dire. Ils ont parlé de la lumière dans le cantique. Pasteur Aldo en a reparlé à nouveau. Et pendant sa présidence, notre frère a dit que si on suivait Jésus-Christ, c'était une source de bénédiction. Et ça fait partie de ma deuxième partie. Donc ça rassure. Alors, je vais vous parler de la lumière. Jésus-Christ est lumière. Vous le saviez, mais on ne peut pas vivre sans lumière. Il a fait chaud ces derniers temps. Ceux qui ont la chance d'avoir un jardin, on profite de la fraîcheur. Il y a une lumière, il y a plein d'insectes qui vont s'y mettre. Et ce sont des insectes nocturnes. Donc les insectes nocturnes cherchent la lumière. Il y a même des pièges, je crois, ils leur lancent une lumière bleue, donc il n'y a plus d'insectes. Mais figurez-vous aussi que sans lumière, on manque de vitamine D. Dans les pays nordiques, Finlande, Suède, où les jours sont très courts en hiver, ils sont supplémentés en vitamine D. Bon, ils sont supplémentés en vitamine D. Et il y a même une méthode qui s'appelle la luminothérapie pour les gens déprimés. On leur met des lumières très fortes et ma foi, il paraît que ça marche. Alors, je vous invite à ouvrir... J'ai écouté pendant le confinement une prédication de Ananijus et il a l'habitude de se baser sur deux passages. Donc, je vais m'y essayer aussi. Donc, Jean 8, verset 12 et 1 Jean 1 à partir du verset 5. Je vais lire les deux et ensuite on examinera ce que le Seigneur veut nous dire. Donc Jean 8 à partir du verset, le verset 12. Jésus leur parle, c'est juste après le récit de la femme adultère. Hein, d'accord ? Jésus leur parla de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Et 5-10, hein. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Alors, dans Jean, verset 12 du chapitre 8, j'ai laissé la parole parler, donc ma première partie, ça va être « Je suis la lumière », ensuite « Celui qui me suit », et enfin « Il aura la lumière de la vie ». C'est lorsque la parole donne un plan de prédication, autant suivre. Donc, notre Seigneur dit « Je suis la lumière ». Donc, on va faire un peu de grammaire, article défini, donc il n'y en a pas d'autre. Si je dis « Le rosier est au fond de la cour », vous ne vous attendez pas à en trouver 4 ou 5. Il y a un seul rosier. La voiture est dans le garage, il n'y a qu'une seule voiture. Donc ça, c'est très important pour nous, chrétiens. L'unique lumière, c'est Jésus-Christ. C'est-à-dire que toutes les autres n'en sont pas. D'ailleurs, toutes les autres lumières, un jour, vont s'éteindre. Même la lumière est allumée, mais si la centrale électrique qui nous fournit l'énergie s'arrête, on est tributaire de ça. La lumière de notre Seigneur ne s'arrêtera jamais. Donc, malheureusement, Notre monde a tendance à suivre ses propres lumières. Il y a même une philosophie qui s'appelle la philosophie des lumières, qui n'en sont pas, bien sûr, mais tout le monde cherche la lumière. Tout le monde cherche la lumière, mais la seule lumière, et il le dit lui-même, « Je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. » Si il dit « Je suis », il se présente en tant que Dieu, il dit « Moi, qui suis Dieu ?» Je suis la lumière. Donc, comme on vient de le dire en introduction, sans lumière, il n'y a pas de vie possible. C'est vrai au sens propre du terme, au sens physique, mais au sens spirituel, si nous n'avons pas de lumière, nous allons nous éteindre. Parfois, une très petite lumière suffit à nous guider. Quand tout est noir, vous avez sans doute pris l'avion déjà quand il fait nuit, mais la moindre lumière se voit, de parfois très loin. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, à Londres, pendant une période qui s'appelait le Blitz, au début de la guerre, les Allemands bombardaient Londres. Ils n'avaient pas le radar, donc ils y allaient à vue. Donc les Londoniens avaient pour consigne tout éteint. Et fumer une cigarette en extérieur la nuit, il y avait une amende. Parce que le bout incandescent du mégot se voyait à plusieurs centaines de mètres. Et c'est quoi comme lumière ? Donc la moindre lumière se voit. Donc nous voyons cette lumière qui est une lumière aveuglante et le monde ne la voit pas. Si Christ est la lumière du monde, ne pas le suivre, ça veut dire quoi ? On court dans les ténèbres. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Donc celui qui ne me suit pas marchera dans les ténèbres. Si nous croyons que Christ est la lumière du monde, nous devons le suivre. Je développerai ça dans un genre, dans quelques instants, comme on dit à la télé. Donc, il faut le suivre. Si on ne le suit pas, d'abord on marche dans les ténèbres, et si on marche dans les ténèbres sans rien y voir, on va tôt ou tard tomber. Et c'est d'ailleurs étrange, c'est ce rapport qu'on a avec la lumière, puisque regardez un enfant. Ceux d'entre nous qui avons des petits frères ou des petites sœurs, quand on était enfant, on trouvait ça très drôle de leur éteindre la lumière. Ils se mettaient à crier, donc on trouvait ça follement drôle, et pourtant, rien n'avait changé. La maison était la même, on éteignait la lumière, on se sent angoissé. Eh bien, c'est de cette façon que nous devrions nous sentir si nous n'avons pas Christ. Sans cette lumière qu'est Jésus-Christ, le monde est ténèbre. Donc, il nous enjoint à le suivre, puisqu'il est la lumière. Quand il y a une marche dans la nuit, surtout à cette époque-là, c'était une personne qui avait la lumière, une espèce de loupiote. Et donc il fallait le suivre, suivre la personne, et bien rester fixé. Alors, suivre Christ, ça veut dire quoi ? Ça veut dire être son disciple. Je vous rappelle la différence entre disciple et apôtre. L'apôtre, c'est celui qui est envoyé, le disciple, c'est celui qui suit. D'accord ? Bon, on peut être les deux à la fois, puisque sur les 12 disciples, 11 étaient apôtres, mais nous, des apôtres, il n'y en a plus. Nous sommes ses disciples. Alors pourquoi ? Pourquoi le suivre ? Parce que Dieu est lumière, et pas nous. Nous sommes ténèbres. Dieu est saint, mais pas nous. Nous sommes des pécheurs. Dieu est juste, mais pas nous. Nous sommes justifiés, c'est-à-dire qu'à la base, nous ne sommes pas justes, puisqu'on a besoin d'être justifiés. Donc, il est très important d'avoir ça à l'esprit, c'est la lumière uniquement. Malheureusement, beaucoup choisissent de ne pas suivre cette lumière. Pourquoi ? C'est pour une raison bien simple. Quand on était adolescent, certains d'entre nous, on avait de l'acné. Et on se regardait, ça va. Dès qu'on allumait une lumière un peu forte, on dit « aïe, 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 ça va pas du tout ». La lumière révèle ce qui va pas. Si on a un problème de peau, on pense que c'est pas grave. Le dermatologue, il a une grosse lumière, ça se voit tout de suite. Et donc, cette lumière qu'est le Christ nous révèle tel que nous sommes. Nous sommes des pécheurs. Donc il nous faut cette lumière, sinon on marche dans les ténèbres. Ensuite, Jésus-Christ est la lumière, celui qui me suit. Alors là, on va avancer un petit peu et passer au chapitre 12 et lire deux versets, 35 et 46. C'est toujours bien de pas trop se baser sur des notes, mais la Bible se commente d'elle-même. Donc, chapitre 12, versets 35 et 46. 12, 35. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. C'est 13. Pardonnez-moi. Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Et le verset 46, qui reprend un petit peu la même idée, je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure point dans les ténèbres. Vous voyez, si on ne croit pas en lui, on demeure dans les ténèbres. Et là, on peut encore se tourner vers lui. Dans quelque temps, ça sera trop tard. Quand, j'en sais rien. Est-ce que c'est dans une heure? Dans 10 ans, je n'en sais rien. Mais un jour, on ne pourra plus se tourner vers lui. Alors, celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Si on marche sans lumière, on va tomber. Si on suit ce qu'on pense être une lumière et qui n'en est pas une, la chute sera beaucoup plus difficile. Alors, il n'est pire aveugle que celui qui prétend voir et qui ne voit pas. Le meilleur exemple, ce sont les pharisiens. Alors, c'est une légère digression, mais vous allez voir que c'est un exemple précis de gens qui voient, mais qui refusent de voir. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », c'est aux pharisiens qu'il s'adresse. Pourquoi ? Parce que la tente de la rencontre était entourée. Il y avait le parvis, ensuite le lieu saint, et ensuite le lieu très saint. Il y avait 3 portes. La porte du chemin, la porte de la vérité et la porte de la vie. On allait dans le Saint des Saints, c'était le grand prêtre, une seule fois par an. Donc quand il dit ça, je suis le chemin, la vérité et la vie, il dit aux pharisiens, c'est moi qui suis le Messie. Et ils comprennent tout à fait ce qu'il veut dire, mais ils refusent de croire. Pourquoi ? Parce que ça les met en face de leur péché, parce qu'ils vont perdre une espèce de puissance, une espèce de domination spirituelle qu'ils ont sur le restant de la population, mais surtout parce que ça va, ça leur dit, mais vous êtes pécheurs, vous comprenez rien. Est-ce que vous êtes prêts à perdre ce que vous pensez avoir pour réellement avoir la vie ? La réponse est malheureusement non. Alors, si on suit notre Dieu, on n'est jamais déçu. Et notre frère Samy, tout à l'heure, disait que suivre Dieu, c'est source de bénédiction. Et c'est ce que, dans ce même chapitre 12, au verset 26, c'est ce que Dieu nous dit par sa parole. 12, 26. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Donc vous comprenez, si on veut servir, il faut le suivre. Si on dit je veux servir Dieu et puis qu'on ne le suit pas, ben c'est qu'on ne veut pas vraiment le servir. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Bon, est-ce qu'on a conscience de ce que ça veut dire le Père l'honorera? C'est-à-dire que le moindre service, il y a des choses qui peuvent nous sembler anodines. Parfois, ce n'est pas grand-chose. Vous savez, un simple sourire, je me souviens, j'avais un de mes fils qui était très souriant étant enfant. Et quand on le promenait, il avait 7-8 mois, dès que quelqu'un le regardait, il sortait un immense sourire. Et on s'est retrouvé à parler à des gens uniquement parce qu'un bébé leur avait souri. Et je me souviens d'une dame, elle avait l'air déprimée un peu, et le fait de voir, bon, c'est mon fils, donc je ne vais pas dire qu'il est moche, mais bon, le fait de voir un beau bébé sourire, c'était pas grand-chose. Donc, pour servir le Seigneur, parfois, ce qui ne nous semble pas grand-chose, c'est peut-être ce qu'il nous demande. Et le Père lui-même nous honorera. Donc le Créateur du ciel, de la terre, le Dieu Tout-Puissant, nous honorera si on le sert. C'est donc un véritable encouragement à le suivre. Suivre le Christ, ça vaut la peine. Nous suivons la vraie lumière, nous marchons avec celui qui est la vie. Il n'a pas simplement la vie, il est la vie. Maintenant, en quoi ça sert ? Qu'est-ce que ça signifie concrètement le servir ? Parce qu'on a bien conscience que nos forces sont limitées et que, quelque part, grandir, ça veut dire vieillir. Et petit à petit, on se dit, oui, mais ça, je ne peux plus le faire. Sauf que notre Seigneur nous donne les outils. Et c'est là où on va aller dans 1 Jean. Donc 1 Jean, à part 1 Jean 1, 5, 10, qu'on a lu tout à l'heure. L'heure du bête des marque-pages. Alors, Donc, 1 Jean 1, 5, 10 nous dit ce que nous devons faire. D'accord ? Si nous devons le suivre, si nous le suivons, il faut donc marcher avec lui. D'accord ? Verset 6. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et ne pratiquons pas la vérité. Si on marche dans les ténèbres, on ne marche pas avec lui. Verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Donc, trois questions. Marchons-nous dans la lumière ou dans les ténèbres ? Là aussi, il n'y a pas de réponse nette. On marche dans la lumière, mais aussi un peu dans les ténèbres. Est-ce que Christ éclaire tous les aspects de ta vie ? Je dis bien tous les aspects de ta vie, pas à 99,9%. Les gels hydroalcooliques, ça purifie, ils mettent à 99,9%. Bon, c'est pour se couvrir, mais une purification totale n'est pas possible. D'accord ? Une pureté totale n'est pas possible. Et pourtant, c'est ce que Dieu nous demande. Est-ce que le Christ, par sa parole, éclaire tous les aspects de notre vie ? Je dis bien tous. Personnellement, ce n'est pas le cas. Donc, s'il y en a un qui estime que Christ éclaire tous les aspects de sa vie, bon, peut-être qu'il se fasse connaître, parce que j'aimerais bien savoir. Hein. Donc, la vie chrétienne, c'est cette lumière qui va s'élargir, mais qui ne va jamais tout couvrir. Ensuite, pratiquons-nous la vérité ? Je dis bien la vérité, pas une vérité. Il ne s'agit pas seulement de dire la vérité, ça c'est très important. C'est de pratiquer la vérité, ce que Dieu nous donne, et savoir nous réformer quand c'est besoin. Alors, pratiquer la vérité, ça veut dire aussi parfois avoir mal. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà tordu la cheville. On a une entorse, on va chez le médecin. Bon, il cherche à savoir où c'est. Vous savez, bon, il y a plusieurs ligaments, donc il va mettre son pouce. Il dit, ah, c'est pas là. Quand il tombe sur le ligament qui a été étiré, là, on sait tout de suite. Il n'a encore rien fait, mais avant de soigner, il faut qu'il sache où ça fait mal. Mais parfois, la parole, elle appuie là où ça fait mal. Il faut savoir se faire réformer. J'ai lu un pasteur sur Internet qui disait, presque avec des larmes, qu'il s'était rendu compte qu'il buvait trop. Dans des repas entre amis, c'était un apéritif, puis un verre de bière, un verre de vin, deux verres de vin, un digestif. Et il a eu un profond malaise qui venait du Seigneur, il me semble, et il a réformé son attitude. C'est ça, marcher dans la lumière. Parfois, le Seigneur nous dit, attention, ça ne va pas. Donc il faut savoir écouter le Seigneur, parce qu'il est la vérité. Deuxième chose, marcher dans la lumière ne veut pas dire qu'on ne pêche pas. Verset 7. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Si le sang nous purifie de tout péché, c'est parce qu'il y a du péché. S'il n'y avait pas de péché, il n'aurait pas besoin qu'il nous purifie. C'est logique. Quand quelque chose est propre, purifié, on ne va pas le laver. Et c'est là que l'attitude face au péché est extrêmement importante. Ralph Salis parlait de la grande repentance à la conversion, et ensuite des petites repentances. À chaque fois qu'on demande pardon, à chaque fois que on veut écouter la parole, pardonne-moi Seigneur, et qu'on s'efforce de ne pas recommencer. Maintenant, il y a trois attitudes. Une seule est la bonne et deux sont les mauvaises. La plupart des gens disent, face au péché, c'est pas grave. Je n'ai volé personne, je n'ai jamais agressé qui que ce soit, je n'ai tué personne. Ah oui, mais. Est-ce que quelqu'un n'a jamais eu de haine pour quelqu'un d'autre, au point de le tuer ? Est-ce que quelqu'un n'a jamais rien dérobé comme ça ? En loose day, comme on dit maintenant. Allez, hop. C'est peut-être pas grand-chose. Est-ce que vous allez au restaurant, vous vous rendez compte que qu'il a oublié un ou deux cafés, c'est pas grave. Et effectivement, c'est pas ça qui va mettre le restaurant en faillite. Mais, si vous avez remarqué, il faut le dire. Alors, pourquoi c'est aussi grave ? Parce qu'on n'appelle pas le péché comme ce qu'il est. Le péché, c'est le péché. Qu'on vole 200 millions d'euros ou qu'on vole une somme beaucoup plus petite, ça reste un vol aux yeux de Dieu. On confond souvent ce que nous, on pense, de ce que Dieu pense. Ce que nous, on pense, ça c'est généralement assez cool. Et on se dit, ouais, mais c'est pas grave, c'est pas grand-chose, je ne fais de mal à personne. Non. Sa vérité n'est point en nous. Nous le faisons un menteur. Nous le faisons un menteur. Au verset 10. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur. Sa parole n'est point en nous. Appeler le péché péché, c'est suivre la parole du Seigneur. Donc, soyons extrêmement vigilants. Il me semble que... Alors, il ne s'agit pas, quand on va au restaurant ou quand on fait ses courses, de prendre une loupe, de passer 10 minutes. Mais bon, si on remarque qu'il y a un problème... D'ailleurs, il peut aussi nous avoir compté un truc en trop. Hein, donc, ça peut arriver. Mais si on remarque... Excusez-moi, il me semble que vous avez oublié. Ça m'est arrivé une fois, puis... Le gars m'a dit, c'est pas grave, j'ai oublié. Vous êtes sûr? Ah, mais écoutez, c'est de ma faute, j'ai oublié. Oui, c'est ce que je lui avais dit. D'autres fois, la personne nous remercie parce qu'il faut qu'il paye de sa poche. Donc, n'hésitons pas, le péché est le péché, c'est grave. Il n'y a pas de petit péché ou de grand péché, ça c'est de la sociologie, les catholiques parlent de péché mortel et de péché véniel, je crois. Et le péché véniel et le péché mortel, ce sont des péchés. Ensuite, il y a aussi l'idée que Dieu est gentil. Il est gentil. Il sait que j'ai cette faiblesse. Il est bon. Donc il passera là-dessus. Alors oui, il est bon. Mais il est saint et il est juste. Et donc Dieu a en horreur tout ce qui se rapproche de près ou de loin du péché. Il l'a en horreur par définition. Parce qu'il est Dieu, parce qu'il est saint. Donc, ne nous cachons pas derrière le petit Jésus, derrière Dieu est amour. Donc, il va... Oui, Dieu est amour. Mais Dieu aussi juge le péché, parce qu'il est Dieu. Donc, on peut voir ça. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Là aussi, on dit qu'on n'a pas de péché, mais quelque part... On force Dieu à aller dans sa direction. Non, ça, c'est pas grave. Ça, c'est pas grave. Oui, c'est vrai, mais bon, j'ai tapé sur cet homme, mais enfin, il m'avait énervé. Oui, mais bon. Oui. Oui. Sans doute, mais bon. Mais s'énerver est aussi un péché. Alors, sur ces deux méthodes qui sont les mauvaises, laquelle est la bonne? La bonne, c'est un verset qu'on connaît tous par cœur et qu'on se répète plusieurs fois. Si nous confessons, verset 9, nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et pour nous purifier de toute iniquité. D'abord, une condition. Si nous confessons nos péchés, donc il faut les confesser. Dans la réunion de prière, on rappelle, pour ceux qui ne viennent pas, on chante, et ensuite, il y a toujours une petite méditation, un enseignement sur la prière, à partir de la parole, évidemment. Et ça finit toujours par dire, avant de demander, demandons pardon. Si nous ne sommes pas en communion avec le Seigneur, ben, autant parler tout seul dans les toilettes, ça servira à peu près à la même chose. Le Seigneur n'écoutera pas. Donc, si nous confessons, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il est fidèle et juste? Parce qu'il est fidèle à ses promesses. Il est fidèle à ses promesses. Il nous pardonne parce que Christ est venu pour donner sa vie, pour mourir à notre place. Donc si nous croyons cela, si nous disons simplement, pardon Seigneur mon Dieu, je suis un pécheur, j'ai péché, j'ai fait ça, je le regrette, mais quand on regrette quelque chose, ben, c'est que c'est fait. Donc, il est fidèle à ses promesses. Soyons aussi fidèles. La fidélité pour Dieu, dans ce cas-là, c'est nous pardonner, parce qu'il a dit qu'il le ferait. La fidélité pour nous, c'est lui confesser nos péchés. Sinon, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Donc si sa parole est en nous, nous devons lui confesser nos péchés. Nous devons marcher à sa lumière et nous devons le suivre. Alors, encore une fois, ça n'est pas une obligation légale. Un petit peu comme le feu est rouge, il faut que je m'arrête. Mais je vois ça un petit peu quand on était jeune marié, quelqu'un vous obligeait à rester avec vos conjoints respectifs. Mais non. On était au travail. Encore une heure, on avait hâte. Et on ne regardait pas sa montre quand on était avec son épouse ou son époux. On profitait simplement donc, de sa présence. Et pourtant, le code civil, je crois, dit clairement qu'on doit faire maison commune. Mais ça n'est pas ressenti comme une obligation. Si on aime le Seigneur, le suivre doit être un plaisir, parce que on suit la seule lumière réelle. Et il faut avoir confiance, marcher humblement avec lui, on ne sera jamais déçu. On ne sera jamais déçu parce que, comme on vient de le dire, si on le suit, il nous honorera. Si on le suit, il nous pardonnera jour après jour. Et comment pourrait-on être déçu par un Dieu qui s'est fait homme, dont son Fils est mort pour nous, a souffert pour nous, et est ressuscité le troisième jour? Il est fidèle. Donc, mes frères et mes sœurs, soyons-lui fidèles, suivons-le chaque jour. Vous savez, quand la marche est longue, marchez lentement, mais sûrement, c'est beaucoup mieux. Plus la randonnée est longue, plus on va marcher lentement. Plus la course est longue, plus on va courir lentement. D'accord ? Sinon, on s'essouffle et on s'arrête. Donc, ayons confiance, on marche tous à son propre pas, mais ayons en face de soi-même Jésus-Christ. Il est la lumière. En dehors de lui, il n'y a que ténèbres. Il est la lumière, il est fidèle. Soyons-lui fidèles en le suivant jour après jour. Amen. Amen.